Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce Loire Mag de mars 2021. Au sommaire, avec le printemps qui arrive, nous allons sans doute être plus nombreux à utiliser le vélo, du VTT au VTC. En passant par le vélo à assistance électrique, le département offre de belles balades sur des parcours sécurisés ou apaisés en matière de circulation de voitures, notamment avec la Véloire. C'est Alain Laurendon, premier vice-président du département, qui nous en parlera. Et on aura encore aussi une info avec l'association Vélo en forêt qui nous parlera du coup de pouce de l'État pour notamment réparer vos vélos. Mais attention, ça finit le 31 mars. Et puis, on reviendra sur une action de la Croix-Rouge qui, avec des jeunes, s'est mobilisée à Noël dernier pour aider des personnes démunies. C'est la Croix-Rouge mobile. Nous aurons encore au menu Michel Alipratz qui est luthier et c'est une belle reconversion. Il sera au micro de Clément Bonsignor. Et puis, l'on terminera avec des maçons, des apprentis maçons et des professionnels à leur côté au lycée de Néronde, qui est un lycée professionnel qui permet de former justement des jeunes du bâtiment. On entendra les témoignages des jeunes et celui d'un professionnel qui est maçon du patrimoine. Ils seront au micro d'Emmaël. C'est Loire Mag sur RCF.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Parlons donc vélo. Maintenant, le département de la Loire a défini les principes et objectifs de sa politique cycliste et a adopté le schéma de développement du vélo dans la Loire 2013-2020. Ce schéma donc vient de s'achever, un autre va commencer. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela propose en termes d'itinéraire? Les explications d'Alain Laurendon, premier vice-président du département.
Loire Mag, le dossier.
C'est un schéma 2013-2020, nous sommes à la fin de ce schéma, même si avant nous avions déjà travaillé sur les déplacements doux. Et ce schéma a été mis en place pour la réalisation d'un axe structurant à but touristique et déplacement, puisque c'était la réalisation d'une voie verte ou d'un véloroute au plus près de la Loire, pour faire le lien avec les réseaux nationaux, donc c'était un schéma national et régional, pour pouvoir se connecter à la Saône-et-Loire et d'assurer la traversée du département jusqu'à la Haute-Loire. Donc ça, c'était le schéma 2013-2020. C'était la principale initiative. On avait aussi des initiatives, puisque c'était basé sur le tourisme, de valorisation de nos cols remarquables, puisqu'on a balisé des cols pour permettre une découverte cyclotouriste, toujours avec un but pour le territoire, mais aussi touristique. Et puis, on a travaillé sur la sécurisation, sur des projets de sécurisation de l'approche des collèges pour nos collégiens en déplacement doux. Et puis, au fur de ces 2013-2020, la mobilité est devenue une des priorités au niveau politique national et départemental. Donc, on a amené des éléments complémentaires et ce sera les thèmes du prochain schéma qui va débuter l'année prochaine et qui est en train d'être mis en place. Donc, nous, la réalisation de ce premier schéma, c'est la Véloire. La Véloire qui part de la Saône-et-Loire, donc au nord de Roanne, et sur une voie déferrée et le canal de Roanne à Digoin, on a fait une voie verte qui est en site propre, donc qui n'utilise pas la voirie sauf sur une traversée de commune et qui se déroule sur 21 km. Et à partir de cette voie, on peut rejoindre à Paray-le-Monial toutes les voies nationales et européennes cyclables, c'est-à-dire qu'à partir de Roanne aujourd'hui, on peut se rendre en Europe par des véloroutes ou des voies vertes facilement avec cet Eurovélo 6 qui passe à Paray-le-Monial. Donc on a fait ce premier tronçon de 21 km et depuis l'année passée, en véloroute, on a balisé le port de Roanne jusqu'à Moron-les-Bains. Ça, c'est la deuxième tranche.
Quand vous dites baliser, ça veut dire quoi?
Le schéma véloroute et voie verte. La voie verte, c'est une voie en site propre. Donc une voie de 3 mètres minimum de large, sur lequel il n'y a que la circulation cycliste. Bon, on trouve des piétons, mais mode doux. Et ensuite, les véloroutes sont des fléchages de voies de vélo, sur soit des routes aménagées, soit des routes à faible circulation. C'est-à-dire que une voie verte, il faut qu'elle n'ait pas une pente trop importante. Donc lorsque vous arrivez dans les gorges de la Loire du Roannais, vous avez quand même une déclivité forte. Donc on utilise les gorges de la Loire du Nord sur des petites voies, Saint-Jean-Saint-Maurice, tous ces coins-là, pour aller jusqu'à Balbigny dans une vallée qui est exceptionnelle, mais sur laquelle on est sur des voies routières où la circulation est apaisée, c'est-à-dire un taux de voitures assez faible pour pouvoir permettre aux vélos de circuler en toute sécurité, avec des aménagements que l'on fait au fur et à mesure. Donc cette partie jusqu'à Balbigny. Après Balbigny, le circuit a été balisé au sein de la plaine du Forêt sur des petites voies secondaires pour atteindre Moron-les-Bains. Ce qui fait que de Roanne à Moron-les-Bains, nous avons un peu plus de 80 km. Avec nos 20 km, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 100 km dans le projet que nous avions de 150 km qui va se poursuivre.
Là, on est plutôt dans la moitié nord du département. La moitié sud, eh bien, on va buter contre le Pilat. C'est pas forcément simple toujours. Qu'est-ce qui est prévu là ou qu'est-ce qui existe déjà?
Là, on est en phase de finaliser le projet. C'est-à-dire que la suite de Moron-les-Bains, c'est suivre la Loire, donc c'est jusqu'à Saint-Just-Sarrembert. Et à partir de Saint-Just-Sarrembert, l'objectif, c'est de rejoindre Firminy pour justement, dans le cadre de notre schéma national, rejoindre la Haute-Loire. Et c'est là-dessus où les techniciens sont en train de travailler, d'étudier la meilleure solution. La Haute-Loire a travaillé déjà sur une partie de sa voie verte. Et aujourd'hui, la Haute-Loire, entre autres, arrive jusqu'au col du Tracol pour pouvoir créer un lien avec la Via Rhôna par le Pilat. Ça fait partie de deuxième partie du projet pour la Loire, puisque nous accompagnons la communauté de communes du Pilat de Bourg-Argental pour relier le Tracol à Bourg-Argental et ensuite rejoindre la Via Rhôna, qui est un objectif national auquel nous participons.
Merci à Alain Laurendon. Nous aurons l'occasion de l'entendre encore le mois prochain. Il nous parlera cette fois des projets à venir et puis de la façon dont la Véloire en particulier va être mise en connexion avec Via Rhôna. On continue avec le vélo. Avis pour tous ceux qui aiment la petite reine ou qui veulent se remettre en selle. Le coup de pouce vélo de l'État est encore possible jusqu'au 31 mars prochain. Un coup de pouce pour trois usages décrit par Serge Sagnard, président de l'association Vélo en Forêt. Il répond à Clément Monsignor.
Le coup de pouce vélo comporte toujours donc trois aspects. Un coup de pouce vélo réparation, limité à 50 euros. Un coup de pouce vélo remise en selle. Et un coup de pouce vélo stationnement. Stationnement, on va dire extérieur, simplement.
Alors on va les détailler rapidement. Coup de pouce réparation, qu'est-ce qui est limité à 50 euros?
Il n'y a pas de limite au niveau de l'intervention, c'est simplement la somme qui est limitée. Le militant, en quelque sorte, qui va se rendre chez un vélociste ou chez un réparateur associatif, fera donc des réparations pour 50 euros hors taxe.
En fait, le but, c'est vraiment de démocratiser l'usage du vélo en essayant finalement toutes ces choses, c'est-à-dire le coup de pouce réparation, le coup de pouce remise en selle, le coup de pouce stationnement. C'est vraiment dans l'idée de rendre le vélo accessible à tous.
Et en même temps, donc, de poursuivre cette dynamique qui s'est mise en place depuis le plan national vélo en 2019. On se rend compte que grâce au coup de pouce vélo, on a réparé plus de 1 million de vélos. Dans la mesure où une réparation donc, est limitée à un seul client, ça a vraiment permis, dans le cadre de la pandémie, de faire en sorte que des gens qui avaient abandonné l'idée de prendre leur vélo le reprennent justement pour se déplacer.
C'est bien, ça évite de jeter et d'en racheter en plus, donc on est dans le recyclage, c'est parfait.
Absolument.
Justement, on va parler aussi du coup de pouce remise en selle. Alors là, qu'est-ce que c'est?
Ça permet donc, en se rendant dans une vélo-école agréée, de bénéficier de une ou deux séances de, je dirais, même si c'est un peu un barbarisme, de refamiliarisation avec un vélo pour reprendre confiance, pour recirculer dans la circulation.
Donc là, c'est des conseils, etc., des gens.
Oui, c'est même du conseil technique, arriver à trouver sa place dans une circulation, ne plus avoir peur, dire qu'on a sa place au milieu des voitures et qu'il y a aussi des gestes donc à avoir pour être en bonne sécurité.
Vous, à Vélo en Forêt, le coup de pouce que vous avez le plus mis en avant, c'est le stationnement. Là aussi, même question pour les deux autres finalement, qu'est-ce que c'est?
C'est le troisième volet donc du coup de pouce vélo. Il est destiné donc à faire en sorte que toutes les communes, que tous les établissements publics de coopération intercommunaux, que tous les employeurs par exemple, ou même des collèges ou des lycées, s'engagent dans une démarche de stationnement, car c'est aussi l'un des trois volets qui fait fonctionner donc le système vélo. Un cycliste, il a besoin de continuité d'itinéraire, de sécurité d'itinéraire et de stationnement au départ et à l'arrivée. Le coup de pouce, donc stationnement, permet à tous les acteurs que j'ai cités de bénéficier d'un financement de 60% de la dépense hors taxe. Et donc, on a beaucoup travaillé en direction des communes, des EPCI.
Et là, on n'est plus pour les particuliers qui auraient peur de se remettre en selle ou qui devraient réparer leur vélo. On est vraiment sur, si on veut que les particuliers viennent à vélo, effectivement, c'est mieux de pouvoir le garer.
Absolument. Et donc, on est sur de l'acteur institutionnel. Hein. Malheureusement, pour ce coup de pouce, vélo stationnement, ça va se terminer fin mars. Mais on va continuer à travailler dans la mesure où ça continue jusqu'à la fin de l'année pour du stationnement couvert.
Alors justement, dans votre rayon d'action, on a bien compris, vélo en forêt, que vous étiez dans le forêt, son nom l'indique. Justement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place grâce à ça ?
On est d'une part très content et d'autre part un petit peu déçu, dans la mesure où ça fait presque un an qu'on démarche tous nos acteurs institutionnels pour se servir de cet outil. Alors évidemment, les obstacles ont fait que il y a eu la mise en place tardive des conseils municipaux, la mise en place tardive des conseils communautaires, donc certains problèmes ont été un petit peu repoussés. Donc pour l'instant, on est sur une grosse opération avec la ville de Montbrison et qui va aboutir partiellement. Voilà.
Donc on pourra stationner son vélo dans toute la ville de Montbrison.
A priori, tout le centre historique qui bénéficiait donc déjà d'une zone 30 et de double sens cyclable devrait voir donc des arceaux apparaître en nombre. Oui.
Serge Sagnard, quelque chose à rajouter sur ce coup de pouce vélo ? Peut-être profitez-en jusqu'au 31 mars.
Absolument, et j'encourage vraiment les cyclistes qui ont envie de se remettre en selle, soit pour aller travailler, soit pour le plaisir, d'en profiter pour faire remettre en état leur véhicule.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Le savez-vous, des artisans d'exception sont formés dans le forêt. Néronde, au nord de Balbigny, est un charmant petit village médiéval qui a la particularité d'accueillir un lycée professionnel, le lycée Pierre Coton, entièrement dédié au métier du bâtiment. Maçon, peintre, plombier, électricien, on peut y trouver les formations classiques du secteur, mais aussi des perles rares comme des bacs pro assistant d'architecture ou intervention dans le patrimoine bâti. Réalisé dans le cadre de l'apprentissage à partir de la première, la filière IPB permet d'acquérir un savoir-faire d'exception en technique artisanale. Emmaïelle est allée à la découverte de ces maçons du patrimoine. Elle a d'abord rencontré Didier Lachise, le professeur référent de cette formation, qui nous fait visiter l'atelier.
J'ai un atelier qui fait 800 mètres carrés. Et donc, quand on se promène à l'intérieur de cet atelier, on voit qu'on a des murs enduits à la chaux, des murs finis, des murs qui ne sont pas finis. On a des murs en pisé, on a des murs en pierre, on a du pan de bois. Alors, le bâti ancien, c'est quoi ? Très officiellement, c'est toutes les bâtisses construites avant 1948. Et dans notre région, on a la particularité d'avoir beaucoup de pisé et puis beaucoup de maisons en pierre. Et c'est... Le but, c'est de restaurer, de rénover, de réhabiliter des bâtiments qui sont classés monuments historiques ou pas, d'une façon pertinente, sans altérer le bâtiment comme il était à l'origine, c'est-à-dire le remettre dans son état originel.
Et est-ce que les élèves qui viennent ici ont vraiment un amour du patrimoine ? C'est en général ça qui les pousse jusqu'ici ?
Alors, quand ils viennent ici, ils le découvrent, ils ont déjà une petite idée, ils le découvrent, et tous ceux qui restent, c'est-à-dire quasiment les 100%, comme je leur dis tout le temps, c'est un métier passion. Il faut aimer votre métier. C'est un métier qui est long à apprendre. Il faut une dizaine d'années pour maîtriser un peu les différentes techniques. Mais s'ils restent chez nous, c'est que vraiment, voilà, ils ont trouvé leur voie. Et puis ce qu'on veut proposer aussi, c'est ce qu'on propose. Ça se fait naturellement, c'est 100% d'embauche à la sortie de la formation.
Même si c'est le patrimoine, c'est un métier d'avenir.
Voilà, et puis les entreprises se rendent compte qu'elles ont des équipes... de compagnons qui sont vieillissantes, sans être péjoratif, hein, mais il faut assurer une relève, et la relève, on l'a devant nous. Il y a des maçons qui construisent des pavillons, des maisons neuves, etc., il en faut. Il y a d'autres maçons qui font des immeubles, béton, des grands coffrages, des banches, qu'on appelle. Et puis il y a aussi l'autre maçonnerie, c'est la maçonnerie du bâti ancien.
Et qui demande des techniques qui se sont un peu perdues.
Voilà, exactement. Donc c'est les techniques qui se sont perdues qu'on a non pas redécouvert, mais qu'on a développé. Et puis ensuite, on travaille des matériaux naturels, des matériaux qu'on a sous les pieds, comme on dit. et on touche beaucoup à l'éco-construction.
Voilà. En plus,
on prend des matériaux qui sont dans la nature, hein, la terre, la pierre, le bois, avec parfois aucune transformation, on les met en œuvre. Le pisé, dans la plaine du Forêt, on en a sous nos pieds partout. Et donc, l'avantage du pisé, c'est que c'est de la terre, pas n'importe quelle terre, mais c'est une terre qu'on peut réutiliser à l'infini.
En retrouvant ces techniques, en réexploitant ces techniques en scène, on arrive à répondre à un besoin qui est actuel, à une demande qui est actuelle, qui est celle de l'éco-construction.
Exactement, oui, exactement. Pas de pollution, si ce n'est un peu pour la cuisson de la chaux, parce qu'on travaille exclusivement la chaux. On travaille très, très peu le ciment. Et la chaux, c'est quoi? C'est du calcaire qu'on a fait cuire. Et c'est un formidable liant, quoique on puisse aussi bâtir avec de la terre.
Oui, aujourd'hui, vous aviez un atelier un peu particulier.
Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est le module peinture à la chaux. Donc, là aussi, on travaille que des matériaux naturels. Hein, la chaux, le pigment, l'eau. Et en fonction d'un savant mélange, on arrive à faire des peintures. Donc là, ils vont réaliser une fresque sur mortier frais. Voilà, donc ici, ils sont en train d'enduire à la chaux aérienne avec un sable tamisé à une granulométrie de 0,2. Et ils vont faire un appareillage de pierres, de fausses pierres, qu'on va ensuite venir patiner. Donc c'est encore une compétence qu'ils vont développer sur cette journée-là. Donc on voit déjà qu'il y a une certaine dextérité dans le geste. Donc c'est là qu'ils vont venir dessiner leurs appareillages pour donner l'impression que c'est un mur en moellon.
Parmi les jeunes perchés sur leur échafaudage, il y a Jason, en terminale IPB, visiblement très content de sa formation.
Moi j'ai fait un petit peu n'importe quoi, donc j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Et avant j'étais dans cet établissement aussi, sauf en filière d'archi. Donc moi en fait ça ne me correspondait pas du tout, parce que je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime être sur le terrain. Donc je suis venu voir ici pour voir comment c'était et ça m'a vachement plu. Du coup ben, j'ai parlé un peu avec monsieur Lachise et puis du coup il m'a fait venir dans cette filière et du coup maintenant ça fait 2 ans que j'y suis et tout se passe bien pour l'instant en tout cas. C'est un métier ultra passionnant, on fait jamais les mêmes choses, c'est un métier très divers. Nous on peut faire de la charpente comme du piset, comme de l'enduit, on est axé sur à peu près tous les corps de métier, dans la construction du bâtiment, voilà.
D'accord.
J'ai trouvé une motivation en fait, une motivation pour aller en cours tous les jours. Déjà on est payé, donc déjà de base ça motive. Et ce que je fais, moi j'aime ce que je fais, j'aime énormément et je conseille à beaucoup de gens, si jamais ils trouvent pas leur voie, de venir nous voir parce que c'est vraiment un très très beau métier, vraiment.
Qui peut plaire à beaucoup de monde.
À beaucoup de monde, voilà. S'ils aiment les métiers de passion, les métiers d'art, les métiers de beauté, les métiers de prestige, parce que moi je suis chez Comte, donc à Fourvière, donc c'est très prestigieux. Ils ont fait les 24 colonnes, des trucs qui sont d'un prestige mais incroyable. Descendre la Madone de la basilique de Fourvière, c'est des choses qui sont incroyables. Moi personnellement, ça m'impressionne parce que je trouve ça d'une beauté et puis on fait des trucs. Après, dire que c'est nous qui l'avons fait, des choses qui sont du patrimoine historique de la France, c'est exceptionnel. Vraiment.
C'est très valorisant aussi.
Voilà, c'est ça. Après, d'avoir dans son CV, j'ai rénové la cathédrale de Fourvière, j'ai rénové des grandes églises, des choses connues. C'est très, très enrichissant, vraiment.
Et si vous aussi, vous voulez devenir un maçon du patrimoine, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner. Une dizaine de places restent à pourvoir dans ce lycée Pierre Coton à Néronde. Ce sera une formation passionnante avec un emploi garanti à la sortie.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Une nouvelle rubrique maintenant dans Loire Mag, c'est un coup de projecteur sur une association caritative du département. On commence avec la Croix-Rouge qui régulièrement distribue des colis aux personnes démunies, notamment grâce à une tournée avec un camion, c'est la Croix-Rouge sur roue. À Noël dernier, des jeunes ont travaillé avec une équipe de la Croix-Rouge à Marles, c'est un reportage d'Emmaël.
Nous sommes arrivés à Marles. Yvette Lafarge, responsable de l'animation à domicile pour les personnes âgées et isolées, nous présente l'aide alimentaire proposée par la Croix-Rouge de Saint-Étienne.
Il y a la distribution alimentaire dans les campagnes depuis quelques années maintenant.
C'est ce qu'on appelle la Croix-Rouge sur roue ?
Voilà, c'est ce qu'on appelle la Croix-Rouge sur roue qui va, avec un petit peu de provisions, soulager la détresse de quelques familles à Marles et à Bourg-Argental.
Pourquoi la Croix-Rouge s'est-elle lancée dans une opération alimentaire ?
En réponse à des besoins vraiment réels Et donc, je pense que la vocation première de la Croix-Rouge, c'est de venir en aide et que cette aide-là, c'est vrai que sur Saint-Étienne, elle est cruciale. Mais pas seulement sur Saint-Étienne. C'est vrai que dans les campagnes, je crois que la détresse, elle est cachée. Et il y a quelques années, donc, la Croix-Rouge a organisé ses opérations Croix-Rouge sur Roux, mais en faisant des enquêtes au préalable, en allant dans les communes, en demandant aux mairies s'il y avait nécessité de procéder à cette opération.
Et c'est aussi important que cette aide alimentaire vienne à ces personnes, parce que ce sont des personnes qui ne pourraient pas forcément aller chercher la nourriture à Saint-Étienne.
Ça, c'est sûr. Et en plus, je crois qu'il y a une pudeur à la campagne, parce que tout le monde se connaît quand même. Et donc, nous essayons de trouver un lieu de rendez-vous un petit peu discret pour qu'il n'y ait pas trop le regard des autres. Mais je pense que les mairies, les services sociaux font bien ce qu'il faut pour que nous aidions telle ou telle famille. Il nous arrive même d'aller au domicile, même à la campagne. Comme ça, c'est discret quand même. Alors, notre camion est stationné là sur la place, mais si nous allons à domicile, nous y allons simplement avec le cabas, le colis, le plus discrètement possible. Je crois qu'il faut vraiment s'adapter aux besoins des personnes et puis à leur personnalité.
Les bénéficiaires sont loin d'être anonymes. Vous les connaissez?
Ah, nous les connaissons, oui.
Tout à l'heure, je vous entendais demander des nouvelles de la nièce d'une bénéficiaire.
Oui, tout à fait, parce qu'une famille syrienne est venue un matin nous dire « on est vraiment content parce que notre famille va venir ». Et donc, je demandais si la famille était bienvenue, surtout en cette période un petit peu tourmentée. Et la famille est bienvenue, tout le monde est content.
Vous vous réjouissez des belles choses qui peuvent arriver à ces bénéficiaires.
Oui, tout à fait.
Pour partager leur vie.
Si elles peuvent avoir un petit bonheur dans leur vie un petit peu difficile, c'est vraiment super. Et je crois que ces petits bonheurs, elles savent les apprécier sans doute plus que nous, qui avons tout ce qu'il nous faut, quoi.
Il y a j'imagine, des bénéficiaires qui viennent également avoir un lien, discuter avec vous pour l'apport social. Ils ne viennent pas juste, mais aussi pour ça.
Alors, pour Croix-Rouge sur Roux, je pense qu'il y a cet aspect-là. Parce que déjà, les familles nous attendent. Donc, elles discutent entre elles, notamment à Bourg-Argental. C'est une vraie réunion, j'allais presque dire, une vraie réunion de famille. Et après, ils discutent un petit peu avec nous. On prend des nouvelles de tel enfant, est-il scolarisé, dans quelle école va-t-il? Et c'est vrai qu'ils aiment qu'on s'intéresse à eux. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est quand quelqu'un s'en sort, un monsieur qui est venu un jour, on était tout à fait en fin de tournée, il est venu nous voir et nous a dit « je viens vous dire bonjour, je vais au travail là ». Donc il avait sa tenue de travail et nous étions nous très très contents de voir qu'il s'en était sorti ce monsieur et de voir qu'il nous en parlait, qu'il venait nous voir pour nous le dire avec grand bonheur bien sûr.
Ça montrait que vous comptiez pour lui.
Ah oui. C'est vrai qu'il y a cet aspect de colis d'urgence, c'est-à-dire de personnes qui, que ce soit en ville ou que ce soit pendant nos tournées, de personnes qui viennent spontanément parce qu'elles ont besoin de nous, qui après prennent les dispositions nécessaires auprès de l'assistante sociale ou de la mairie, du CCAS, pour être dans le cheminement normal de la distribution.
Et l'opération d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est la convivialité de la Croix-Rouge et avec cette super initiative des jeunes.
C'est un petit peu l'opportunité et la générosité d'un groupe de jeunes du lycée Saint-Michel qui a permis la collecte de boîtes cadeaux que nous allons distribuer aujourd'hui pour notre plus grande joie. J'en profite pour les remercier vraiment très chaleureusement.
Et sachez que la Croix-Rouge organise depuis samedi, en lien avec la préfecture et l'ARS, des tests Covid chaque jour dans un endroit du département. Samedi, c'était à Montbrison, donc il faut vous renseigner. Mais vous pouvez profiter de ce camion qui lui aussi propose cette fois une tournée pour les dépistages de la Covid.
Loire Mag, visage de la Loire.
Je répare, ça repart, entretien, réparation, optimisation d'instruments de musique spécialisés dans les guitares, basses et autres instruments à cordes. C'est désormais le nouveau métier de Michel Ali Prats, un homme qui est devenu luthier. Il est à Montbrison et au micro de Clément Bonsignor.
Alors je me trouve actuellement dans un garage, mais pas n'importe lequel, à Montbrison, le garage à guitare de Michel Ali Prats. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 45 ans et cette boutique est toute nouvelle. En fait, c'est une reconversion.
Oui, c'est une reconversion. Il y a quelques années, je travaillais à l'usine en parallèle de mon intermittence du spectacle en tant que musicien. C'est vrai que ça faisait 9 ans que je travaillais à l'usine et j'en avais vraiment assez d'aller au travail avec la boule au ventre et me dire que je fais là. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, en l'occurrence, en rapport avec la musique et l'objet, la guitare, quoi, qui est mon instrument de prédilection depuis que j'ai 15 ans. J'ai épluché le net, j'ai épluché plein de choses. J'ai été voir des luthiers pour savoir comment ils s'étaient formés, où ils s'étaient formés, est-ce qu'il était possible à mon âge de le faire. Et j'ai trouvé l'ITEM au Mans. Donc je suis parti pendant un an à l'ITEM me former à la lutherie.
Et puis vous avez un groupe de musique toujours, vous tournez encore un peu là.
Oui, toujours un peu. Bon bah c'est un peu un moment difficile là avec le Covid, donc c'est un peu chaud. Mais on a un groupe de reggae metal. On se produit un peu dans la région. On avait pas mal de tags jusqu'à présent. On a fait 2 EP, 2 disques. Juste avant le premier confinement, qu'on n'a pas pu encore sortir le presser comme il faut.
On va reparler de la lutherie. Comment c'est venu ? Parce qu'effectivement, votre instrument de prédilection, c'est la guitare, mais il y a 15 milliards de choses qu'on peut faire autour de la guitare. Mais vous, ça a été tout de suite la réparation et la création, mais on en parlera un tout petit peu plus tard.
Eh ben, j'ai toujours un peu bricolé moi-même mes guitares et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans notre région, on manquait quand même cruellement de réparations, de réparateurs en fait, de guitares, de luthiers. Dans la Loire, il y a Monsieur Bonnefoy à Rouen qui est luthier. Il y a Jérôme Martin à Saint-Étienne aussi qui est luthier. Il est vrai que dans notre région montbrisonnaise, eh ben il y en avait pas. Et les magasins de musique, ils sont vendeurs, ils sont pas réparateurs. Donc c'est vrai que souvent on a des problèmes pour faire réparer une guitare, ne serait-ce que la faire régler comme il faut. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et moi, je trouve ça passionnant de redonner vie en plus à une guitare abîmée, une guitare qui, pour le client, peut paraître morte une fois qu'elle est cassée, alors qu'on peut tout à fait lui redonner une deuxième vie. Et moi, c'est vraiment un challenge intéressant pour moi au quotidien en fait.
Il y a un peu de travail du bois, un peu d'électronique aussi.
Eh ben oui, il y a du travail du bois, du travail de structure sur l'instrument. Il y a pas mal d'électronique. En ce qui concerne la guitare, oui, faut un peu travailler le bois, faut toucher le bois quand même.
Vous parliez de tout à l'heure des gens qui pensaient que leur guitare pouvait être morte. À quel moment elle est vraiment morte ? Même quand le manche est cassé, c'est pas encore fini, là, on peut encore la réparer.
Ah oui, une guitare, elle est jamais vraiment morte, en fait. C'est jamais vraiment morte. Après, ce qui va être dur pour le client, eh ben, c'est la facture finale, parce que si une guitare est très abîmée, forcément, moi, je vais y passer des heures dessus, et des heures, c'est de l'argent. Et pour le coup, la facture peut monter, mais une guitare, à moins d'être complètement broyée, elle n'est jamais morte. Donc même un manche cassé, je fais pas mal de têtes, justement, de têtes de guitare cassée. Et souvent, le client croit qu'elle est foutue. Et en fait, c'est carrément réparable. Et c'est un truc très fréquent qu'on fait.
Je vois Telecaster Made in le garage à guitare. Ça veut dire que vous l'avez créé de A à Z.
Oui, c'est une guitare que j'ai fabriquée donc en fin de cursus à l'ITEM. C'est une guitare type Telecaster que j'ai fabriquée. J'ai mis à peu près 40 heures à fabriquer cette guitare avec un bois en sapelli, une table en frêne, une frêne olivier. Elle est évidée avec des micros Benedetti, manche érable et touche en ébène. Et c'est une guitare que j'ai fabriquée de A à Z. Oui.
Chaque guitare a son âme.
En fait, ce qu'il y a, c'est que Avec une guitare électrique, on est à l'aise pour faire plein de choses, surtout en électronique, en fait. C'est-à-dire que on peut mettre des micros vraiment très, très différents, faire des câblages très atypiques ou personnalisés, même au niveau du manche, même au niveau de la lutherie, de la forme. C'est hyper vaste, en fait.
Même la matière du bois, la forme de la guitare, tout ça, ça change la sonorité finale.
Tous ces paramètres, oui, c'est pas, on peut pas dire qu'un bois change le son de la guitare. Ça serait un peu omettre tous les paramètres qui rentrent en jeu dans le son de la guitare. En l'occurrence, c'est les électriques, hein, je parle, pas les acoustiques. Mais les guitares électriques, le bois a une influence qui est minime par rapport à la castillage, par rapport au micro, au câblage qu'on va faire, aux cordes qu'on va mettre. Au type de manche qu'on va mettre, tout ça. Il y a beaucoup de différences de son par rapport à tous ces aimants-là et ces paramètres-là. En fait.
On a forcément besoin pour venir au garage à guitare ici à Montbrison que notre guitare soit cassée ou est-ce qu'on peut venir pour des petits entretiens un peu plus courants aussi ?
Oui, carrément. C'est des choses que je fais beaucoup, du réglage, de l'entretien, du nettoyage, du changement de corde. Elle a pas besoin d'être cassée. Une guitare, moi, je préconiserais de la faire régler une fois par an. Quand on y joue pas mal dessus, donc ouais, je fais pas mal de réglages en fait. Il n'y a pas besoin qu'elle soit abîmée, votre guitare, pour venir me voir.
Et alors, on vous retrouve où ? À Montbrison et sur les réseaux aussi ?
Aux deux rues de la Mure, à Montbrison. Je suis pas loin du Théâtre des Pénitents. Sur les réseaux, je suis sur Instagram, Facebook, Twitter. Et j'ai mon site internet, legarageaguitare.com.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.